C'était un spectacle à la fois extraordinaire et terrifiant. Le sol consistait en une matière grisâtre, vitrifiée et luisante, qui se soulevait et retombait au rythme d'une palpitation lente. Les battements n'étaient pas directs, ils donnaient l'impression d'une sorte d'ondulation qui se propageait sur la surface. Cette surface n'était pas entièrement homogène. Au-dessous, vu comme à travers un soupirail, il y avait des taches blanchâtres, des vacuoles qui variaient constamment en forme et en taille. Cloués sur place, nous considérâmes tous les trois ce spectacle extraordinaire. « On dirait bien de la peau d'animal, hein ?» chuchota Malone. « Avec son oursin, le vieux bonhomme n'est peut-être pas si loin de la vérité. » « Seigneur, m'exclamai-je, et il va falloir que je plonge un harpon dans cette bête ?»« Ce privilège te revient, mon fils, » déclara Malone. « Et, triste à dire, à moins que je ne me dégonfle, j'aurai le redoutable honneur d'être à côté de toi quand tu t'exécuteras. »« Oui, eh bien, pas moi, » fit l'ingénieur en chef avec décision. Et il ajouta, « Si le vieux insiste, je lui rends mon maroquin. » « Oh mon Dieu, regardez ça !» La surface grise se souleva brusquement, montant vers nous comme l'aurait fait une vague observée du haut d'une dingue. Puis elle retomba et ses battements se régularisèrent. Barforth laissa filer la corde et replaça la toile goudronnée. « On aurait dit qu'elle savait que nous étions là » balbutia-t-il. « Pourquoi y a-t-il eu des remous dans notre direction ?» « Est-ce que ce ne serait pas un effet de la lumière ?» s'enquit Malone. « Et moi, maintenant, que dois-je faire » demandai-je. Monsieur Barforth désigna les deux poutres qui traversaient la fosse juste au-dessous de l'ascenseur. Entre elles, il y avait un espace de 25 cm. « C'est l'idée du vieux bonhomme, » dit-il. « Je crois que j'aurais pu mieux les arranger, mais autant essayer de discuter avec un buffle furieux. » Il est plus facile et plus sûr de faire exactement ce qu'il veut. Son idée est que vous utilisiez votre pointe de 15 cm et que vous la fixiez d'une manière quelconque entre les deux poutres. Eh bien, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de difficultés à cela, répondis-je. Le travail sera fait dans la journée. Il s'agissait, on le devine, de l'expérience la plus étrange de ma vie. Et pourtant, j'avais creusé des puits dans les 5 continents. Comme le professeur Challenger avait insisté pour que le déclenchement fût mis en route à distance, et comme je commençais à me rendre compte que cette idée n'était pas totalement dénuée de bon sens, il me fallut mettre au point un dispositif de commande électrique. Ce fut assez simple, puisque la fosse était garnie de fils du haut en bas. Avec des précautions infinies, mon conducteur de travaux Peters et moi-même descendîmes nos sections de tubes et nous les empilâmes sur la saillie rocheuse. Puis nous fîmes remonter légèrement le dernier ascenseur pour que nous ayons un peu plus d'espace. Comme nous avions l'intention d'utiliser le système par percussion, car il valait mieux ne pas se fier totalement à la pesanteur, nous suspendîmes notre poids de 200 kg à une poulie en dessous de l'ascenseur et nous adaptâmes nos tubes qui se terminaient en V. Finalement, la corde ordonnant le jeu du poids fut fixée sur un flanc du puits de telle manière qu'une décharge électrique put la lâcher. C'était un travail délicat et que la chaleur tropicale rendait difficile. Nous étions surtout obnubilés par l'impression qu'un faux pas ou la chute d'un outil sur la toile goudronnée provoquerait une catastrophe inconcevable. L'ambiance était dantesque. J'ai vu par intervalles, je l'affirme, un bizarre frémissement passer le long des murailles. J'ai même senti quelque chose comme une vague pulsation quand j'y ai promené la main. Ni Peters ni moi n'éprouvâmes de regret à annoncer une dernière fois que nous étions prêts à remonter à la surface et que nous désirions avertir M. Barforth que le professeur Challenger pourrait se livrer à son expérience dès qu'il le voudrait. Oh, nous n'eûmes pas longtemps à attendre. 3 jours après l'achèvement de mon installation, je reçus ma convocation. C'était un carton d'un format ordinaire. On aurait dit une invitation à une soirée. La rédaction était la suivante. Le professeur G. E. Challenger, membre de la Société royale, docteur en médecine, docteur en sciences, ex-président de l'Institut de zoologie et titulaire de tellement de postes et de décorations honorifiques que cette carte n'y suffirait pas, sollicite la présence de M. Jones, célibataire, à 11h30, mardi 21 juin, pour assister à un remarquable triomphe de l'esprit sur la matière à Hengistown, Sussex. Train spécial à la gare Victoria, 10h05. Les invités paient plein tarif. Après l'expérience, un lunch sera servi ou ne sera pas servi selon les circonstances. Gare d'arrivée, Sorrington. Réponse s'il vous plaît et tout de suite avec le nom en capital, 14 bis Enmore Gardens, SW. Malone avait reçu la même invitation. Il gloussait de joie en la lisant. « C'est uniquement pour faire de l'épate qu'il nous l'a envoyé, me dit-il. De toute façon, il faut que nous soyons là, comme dirait le bourreau à l'assassin. Mais crois-moi, tout Londres va en parler. Où qu'il se trouve, le vieux bonhomme se fait toujours éclairer au néon. » Et le grand jour arriva. Personnellement, j'avais cru bien faire en allant passer en bas la nuit précédente pour m'assurer que tout était en ordre. Notre perforatrice était posée. Le poids était ajusté. Les contacts électriques pouvaient être déclenchés facilement. J'étais satisfait. La partie que j'avais assumée dans cette étrange expérience promettait d'être exécutée sans anicroche. Les commandes électriques étaient actionnées à 500 mètres environ de l'ouverture de la fosse afin de réduire au minimum les risques d'un danger personnel. Quand l'aube se leva sur ce jour historique, un jour idéal de l'été anglais, je remontai à la surface, à la fois rassuré et raffermi, et j'escaladai une dune jusqu'à mi-hauteur afin d'avoir une vue d'ensemble sur le théâtre de l'action. Le monde entier semblait s'être déplacé pour se rendre à Hengistown. Aussi loin que je pouvais voir, les routes étaient noires de gens. Sur les sentiers, les voitures cahotaient et dansaient. Elles déchargeaient leurs passagers à la porte de l'enceinte fortifiée. Dans la plupart des cas, là s'arrêtait la progression des curieux. Une escouade puissante de gardiens incorruptibles veillait à l'entrée et il n'y avait ni promesses, ni offres, ni dons qui pussent les séduire. Seuls les porteurs de billets jaunes, affreusement jalousés, obtenaient la permission d'aller plus loin. Les autres rejoignaient la foule immense qui était déjà rassemblée sur le flanc de la colline et qui s'échelonnait jusqu'à la crête. On aurait dit Epsom le jour du derby. À l'intérieur de l'enceinte fortifiée, certaines zones avaient été entourées de barbelés et les privilégiés qui avaient accès étaient parqués dans les enclos qui leur avaient été réservés. Il y en avait un pour les pairs, un pour les députés de la Chambre des communes, un pour les savants célèbres de toute nationalité. On reconnaissait le Pellier de la Sorbonne et le docteur Drissinger de l'Académie de Berlin. Un enclos spécial, avec des sacs de terre et un toit en tôle ondulée, avait été réservé à trois membres de la famille royale. À 11h15, une file de charabancs amena de la gare les invités spéciaux et je pénétrai dans l'enceinte fortifiée pour assister à leur réception. Le professeur Challenger se tenait debout près de l'emplacement réservé aux gens de qualité. Il resplendissait dans sa redingote et son gilet blanc. Son haut de forme étincelait. Il affichait un air de bienveillance excessive qui pouvait passer pour de l'insolence. Il était bouffi d'orgueil, de contentement de soi, de l'importance de soi. « Encore une victime du complexe de Jéhovah », écrivit un journaliste. Il aidait au besoin à diriger, voire à pousser ses invités vers leur place. L'élite se trouvant enfin réunie, il se propulsa sur un tertre qui semblait avoir poussé là, par hasard, et il regarda l'assistance de l'air du président qui s'attend à être salué par une salve d'applaudissements. Comme l'ovation ne vint pas, il se jeta à corps perdu dans son sujet. Sa voix tonnait jusqu'aux confins du domaine. « Messieurs, rugit-il, cette fois-ci, je n'ai pas besoin de saluer les dames. Si je ne les ai pas invitées à venir ce matin avec nous, ce n'est pas, je vous l'affirme, parce que je n'apprécie pas leur présence. » Je puis dire, en effet, que les relations entre leur sexe et moi ont toujours été excellentes des deux côtés, et même intimes. La raison vraie est que notre expérience comporte un petit élément de danger, pas suffisant toutefois pour justifier cet effroi que je lis sur nombre de visages. Les membres de la presse apprécieront, j'en suis sûr, que je leur ai réservé des places sur la halde qui surplombe le théâtre des opérations. Ils m'ont témoigné un intérêt que j'ai parfois du mal à distinguer de l'impertinence. Aujourd'hui, au moins, ils ne pourront pas se plaindre de ne pas être aux premières loges. Si rien ne se produit, ce qui, après tout, est possible, j'aurai au moins fait de mon mieux pour eux. Si, par contre, quelque chose se produit, ils seront fort bien placés pour voir l'expérience et pour la relater. J'espère qu'en fin de compte, ils se montreront dignes de la tâche qui les attend. Comme vous le comprendrez aisément, il est quasi impossible pour un homme de science d'expliquer à ce que je pourrais appeler, sans intention péjorative, le vulgaire troupeau, les motifs variés qui le poussent à agir. J'entends diverses interruptions malhonnêtes et je demanderai au gentleman qui a des lunettes cerclées d'écailles de ne plus agiter son parapluie. Une voix. Votre description de vos invités, monsieur, est des plus déplaisantes. Oui, il est possible que ma phrase, le vulgaire troupeau, ait hérissé ce gentleman. Disons plutôt, si vous voulez, que mes auditeurs ne sont pas un troupeau banal. Ne nous querellons pas pour des mots. J'allais dire, avant d'être interrompu par cette remarque inconvenante, que toute l'affaire est traitée en long et en large dans mon ouvrage à venir sur la Terre, ouvrage que je peux dépeindre sans fausse modestie comme l'un des livres qui feront époque dans l'histoire du monde. Tollé général écrit « Passez au fait! Pourquoi sommes-nous ici? Est-ce une plaisanterie ?» J'allais vous donner tous éclaircissements souhaitables, mais si je suis de nouveau interrompu, je serai forcé de faire appel aux moyens propres à maintenir l'ordre et la décence, lesquels font cruellement défaut. La question, donc, est celle-ci. J'ai creusé un tunnel à travers l'écorce de cette terre et je vais essayer un effet simulatif sur son enveloppe sensible. Cette opération délicate sera dirigée par deux de mes subordonnés, M. Parfait Jones, qui s'est spécialisé avec un style très personnel dans les puits artésiens, et M. Edward Malone, qui en cette occasion me représente. La substance sensible mise à nu sera piquée. Reste à savoir comment elle réagira. Si vous avez l'obligeance de prendre place, ces deux gentlemen vont descendre dans le puits et procéder au dernier réglage. Puis je presserai le bouton électrique que vous voyez sur cette table et l'expérience sera déclenchée. Tout auditoire, après une harangue de Challenger, avait habituellement l'impression que, comme la Terre, son épiderme protecteur avait été percé et que ses nerfs étaient à vif. Cette assemblée ne fit pas exception à la règle. Il y eut un murmure nuancé de critique et de dédain quand elle prit place pour attendre. Challenger s'assit seul au sommet du tertre avec une petite table à côté de lui. Sa barbe et sa crinière noire se soulevaient sous l'excitation. Il avait une allure formidable. Mais ni Malone ni moi n'eûmes le loisir d'admirer la scène car nous nous précipitâmes pour accomplir la tâche qui nous était impartie. 20 minutes plus tard, nous étions au fond du puits et nous avions retiré la toile goudronnée. Sous nos yeux, le spectacle était stupéfiant. Par quelle bizarre télépathie cosmique la vieille planète semblait-elle deviner qu'une atteinte à sa liberté allait être commise? La surface que nous avions découverte ressemblait à une théière en ébullition. De grandes bulles grises montaient et crevaient en crépitant. Les espaces d'air et les vacuoles sous la peau se séparaient, puis se refusionnaient ensemble dans une activité fébrile. Les rides et les ondulations qui la traversaient étaient plus fortes, plus rapides. Un sombre fluide pourpre semblait battre dans les anastomoses sinueuses des canaux qui s'étalaient sous la surface. Le souffle de la vie était manifeste. Une odeur lourde rendait l'air presque irrespirable pour des poumons humains. Malone poussa un brusque cri. « Mon Dieu, Jones, regarde par là !» Je regardai. Dans la seconde qui suivit, j'avais mis le contact et sauté dans l'ascenseur. « Viens vite !» lui criai-je. « C'est peut-être une course pour la vie !» Ce que nous avions vu était réellement alarmant. Toute la partie inférieure du puits, nous avait-il semblé, s'était mise à participer à cette activité croissante que nous avions observée au fond. Par sympathie, les murailles étaient secouées de pulsations et de battements. Mais cette agitation se répercutait sur les trous où reposaient les poutres. La moindre rétraction un peu forte, c'était une question de centimètres, les ferait basculer. Si elle tombait, la pointe de ma perforatrice s'enfoncerait évidemment dans la terre, tout à fait indépendamment du déclenchement électrique. Avant que cette éventualité se réalisât, il était vital pour Malone et pour moi d'être sortis de la fosse. Se trouver à 13 000 mètres de fond sous la terre, avec le risque d'une terrible convulsion à tout instant, était une situation épouvantable. Sauvagement, nous fonçâmes vers la surface. Pourrons-nous oublier jamais cette remontée cauchemardesque ? Les ascenseurs sifflaient et vrombissaient. Pourtant, les minutes nous paraissaient des heures. Chaque fois que nous atteignions une plateforme, nous sautions dessus, bondissions dans la cage voisine toute prête, actionnions le mécanisme et volions plus haut. À travers l'acier grillagé, nous apercevions au loin le petit cercle de lumière qui indiquait la gueule du puits. Elle s'élargissait de plus en plus. Et puis, elle devint un vrai cercle. Et puis, nos yeux ravis distinguèrent la maçonnerie. Nous montions toujours. Enfin, fous de joie et le cœur plein de gratitude, nous nous échappâmes hors de notre prison et nous posâmes nos pieds sur l'herbe souillée au bord du tunnel. Il était temps. Nous n'avions pas fait 30 pas que, du fond des abîmes, mon aiguillon d'acier transperça un ganglion nerveux de notre vieille mère la Terre. Instant historique. Qu'est-ce qui arriva ? Ni Malone ni moi ne fûmes en état de le dire, car nous nous trouvâmes tous deux soulevés par un cyclone, balayés sur l'herbe, tournant et tournant sur nous-mêmes comme deux galérons sur de la glace. Au même moment, nos oreilles s'emplirent du plus horrible hurlement qui eût jamais été entendu. Personne, parmi des centaines qui s'essayèrent à décrire ce cri, n'y réussit tout à fait. C'était un mugissement dans lequel la douleur, la colère, la menace et toute la majesté outragée de la nature se donnaient libre cours et se mêlaient dans un hurlement sinistre. Il dura une bonne minute. Imaginez 1000 sirènes hurlant ensemble. La foule était paralysée. Le hurlement persistait avec fureur et férocité. L'air calme de l'été l'emporta et le retransmit. Il déferla ses échos le long de la côte. Il fut même entendu par nos voisins français de l'autre côté de la Manche. Aucun son dans l'histoire n'a jamais égalé la plainte de la terre meurtrie. Hébétés, assourdis, nous eûmes conscience, Malone et moi, du choc et du bruit. Mais c'est par les autres spectateurs que nous apprîmes les détails de cette scène extraordinaire. Des entrailles de la terre jaillirent d'abord les cages d'ascenseur. Les autres machines se trouvant près des murailles échappèrent au souffle. Mais les solides planches des cages subirent de plein fouet la violence du courant ascendant. Quand plusieurs boulettes sont successivement introduites dans une sarbacane, elles jaillissent en ordre et séparément. Voilà ce que firent les 14 cages d'ascenseur. Les unes après les autres, elles surgirent dans les airs, planèrent, décrivirent de glorieuses paraboles. L'une d'elles tomba dans la mer, près de la jetée de Worthing, une autre dans un champ aux environs de Chichester. Des spectateurs nous ont affirmé qu'ils n'avaient jamais rien vu d'aussi extravagant que ces 14 cages d'ascenseur voguant sereinement dans le ciel bleu. Puis vint le geyser, sous la forme d'un énorme jet d'une mélasse grossière qui avait la consistance du goudron et qui grimpa jusqu'à 600 mètres. Un avion de reconnaissance qui dessinait des cercles au-dessus de notre théâtre fut pris de convulsions et dut procéder à un atterrissage forcé, le pilote et la machine étant complètement encrassés. Cette matière horrible, dont l'odeur s'avéra aussi infecte que pénétrante, était peut-être le sang de la planète, à moins qu'elle n'eût été, comme l'a suggéré le professeur Driesinger et comme le soutient l'école de Berlin, une sécrétion protectrice analogue à celle de la moufette, et dont la nature aurait muni notre mère la Terre pour la défendre contre des intrus dans le genre de Challenger. En tout cas, l'offenseur numéro 1, assis sur son trône en haut du tertre, s'en tira sans une tache. En revanche, la presse, qui se trouvait dans la trajectoire de l'explosion, fut si maltraitée qu'aucun journaliste ne se hasarda de plusieurs semaines dans la bonne société. Ce souffle putride fut emporté par la brise vers le sud-ouest Il descendit sur les pauvres gens qui avaient si longtemps attendu sur les dunes pour voir ce qui arriverait. Il n'y eut pas de décès, et même aucune maison dans les environs n'eut à être abandonnée. Beaucoup conservèrent par contre un parfum tenace. Il s'en trouve encore qui gardent entre leurs murs épais un souvenir plus ou moins vif de ce grand événement. Puis le puits se combla et se referma. De même que la nature cicatrise lentement une plaie de bas en haut, de même la terre bouche avec une rapidité extrême les déchirures qui peuvent être faites à sa substance vitale. Un fracas épouvantable, interminable, éclata quand les parois du puits se rapprochèrent. Le bruit commença par résonner dans les profondeurs, puis monta de plus en plus haut, jusqu'à ce qu'un bang assourdissant annonça que la maçonnerie qui bordait l'ouverture de la fosse s'était écrasée, soulevée, réduite en miettes. Au même moment, une secousse analogue à un petit tremblement de terre projeta la halde dans les airs. Elle retomba sous la forme d'une pyramide de 20 mètres de haut. Toutes sortes de débris s'élevaient ainsi sur l'endroit où la fosse avait été creusée. Non seulement l'expérience du professeur Challenger se trouvait terminée, mais ses vestiges avaient désormais disparu aux yeux des mortels. Si la Société royale n'avait pas érigé un obélisque à cet endroit, nos descendants seraient sans doute bien incapables de déterminer le lieu exact de cet exploit remarquable. Ce fut alors le grand final. Pendant les minutes qui suivirent immédiatement tous ces phénomènes, un silence s'était établi dans un calme tendu. Les spectateurs rassemblaient leurs esprits, essayaient de réaliser exactement ce qui était arrivé et comment c'était arrivé. Mais tout à coup, la puissance de l'exploit, la hardiesse fantastique de sa conception, le génie qui avait présidé à son exécution, leur apparurent. D'un seul mouvement incontrôlable, ils se tournèrent vers Challenger. De partout jaillirent des cris d'admiration. Et lui, sur son tertre, contemplait cet océan de visages levés dans sa direction, cette mer de mouchoirs agitée dans son honneur. Avec le recul, je le revois mieux que je ne le vis sur le moment. Il se leva de sa chaise, ses yeux étaient mi-clos, le sourire du mérite conscient rayonnait sur ses traits, il avait la main gauche sur la hanche, il enfonça la droite dans le croisement du gilet blanc. Cette image a été immortalisée, car j'entendais les déclics des caméras, on aurait dit des criquets dans un champ. Le soleil de juin l'auréolait de sa lumière dorée. Gravement, il s'inclina devant les quatre points cardinaux, lui, Challenger le super savant, Challenger l'archipionnier, Challenger le premier homme de tous les hommes que notre mère la Terre eût été forcée de connaître. Un dernier mot. Il est notoire que l'effet de cette expérience a été universellement ressenti. Certes, nulle part en dehors du point précis où elle fut piquée, la planète blessée n'émit un hurlement pareil. Mais par son comportement général, elle se révéla une entité. Elle cria son indignation par toutes ses fissures, par tous ses volcans. Éclat gronda, mugit, et les Islandais redoutèrent un cataclysme. Le Vésuve se décapuchonna. L'Etna cracha d'énormes quantités de lave et un procès de 500 000 lire de dommages et intérêts fut intenté contre Challenger devant les tribunaux italiens, car les vignobles en pâtirent. Même au Mexique et dans l'Amérique centrale, la colère plutonienne se manifesta. La Méditerranée orientale retentit des grognements du Stromboli. De toute éternité, l'ambition des hommes est d'obliger le monde entier à parler d'eux. Mais il appartenait à Challenger et à lui seul de faire hurler toute la terre.